Bon, alors, bonjour à tous. Je dois d'abord vous féliciter de vous être tous levés en ce dimanche de vacances. Le plaisir de voir qu'il y a des gens qui prennent au sérieux leur vie spirituelle. Je suis content aussi que vous soyez tous là pour m'entendre et voir comme je prêche bien et comme je comprends bien la Bible. Donc, avant de commencer la prédication, Damien m'a demandé de me représenter un peu et donner quelques nouvelles. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai grandi dans cette église, donc je viens d'ici, mais je suis parti depuis cet automne, en septembre, faire des études à Aix-en-Provence, dans une faculté de théologie réformée. Donc, cette faculté représente une branche des réformés qui est restée beaucoup dans la lignée de Calvin et des autres réformateurs qui ont été des vrais héros de l'évangile dans leur époque, donc qui est resté avec un fort accent sur la Bible et sur la confiance qu'on peut y faire, avec une visée sur la gloire de Dieu, et puis bien sûr le salut par la foi, et par la grâce et par la foi en ce que Jésus-Christ a fait sur la croix. Donc au niveau de la foi, je m'y retrouve tout à fait et ça m'enrichit. Et puis c'est aussi un endroit où il y a une autre culture d'église, forcément, et puis aussi peut-être plus un rapport à l'histoire de l'église, à ce qui s'est passé dans le passé, à comment l'évangile a vécu au cours des 2000 dernières années, que ce qu'on y fait attention dans nos églises. Donc il y a beaucoup de choses, de petites différences et d'angles de vue qui me poussent à la réflexion et qui m'aident aussi à avancer. Donc, bref, je suis très content des études que je fais là-bas. On a aussi un bon vécu relationnel entre les étudiants. On est beaucoup à loger sur place aussi. Et j'ai aussi l'impression de pouvoir vivre une partie de l'évangile dans la manière dont on vit ensemble. Donc, voilà, pour le moment, ces études, là, se passent bien. Et puis, en principe, je fais 3 ans là-bas. Mais vous me reverrez pas mal cet été parce que je passe en Suisse. Donc, si on passe à la prédication, donc c'est dans la série sur le serment sur la montagne. Donc là, Jésus parle à des juifs, donc à des membres du peuple de Dieu, qui ont une certaine idée de ce que c'est d'être le peuple de Dieu. Donc, entre autres, ils pensent que, bien sûr, il faut obéir à la loi, et puis que s'ils obéissent suffisamment à la loi, s'ils sont suffisamment fidèles dans leur foi, alors il va venir un Messie qui va chasser les Romains qui les occupent et qui va remettre Israël à sa juste place, c'est-à-dire à la tête de toutes les nations. Donc, dans le sermon sur la montagne, Jésus expose son propre programme, comment lui voit le fait d'être le peuple de Dieu. Donc, vous avez déjà entendu parler des béatitudes où Jésus expose les valeurs du royaume de Dieu, donc de sa vision de ce peuple. Ensuite, Jésus a parlé du rapport à la loi, de la manière dont la loi de Moïse devait être appliquée. Et là, il a dit qu'il fallait aller plus loin, qu'il ne suffisait pas de juste obéir, enfin atteindre la limite et puis s'arrêter là. Non, il a dit que ça allait plus loin et il a dit, entre autres, ce que vous avez entendu la semaine passée, « Soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. » Maintenant, dans le texte d'aujourd'hui, Jésus va s'attaquer à la manière et à l'attitude qu'on doit avoir en mettant en pratique tout cela. Alors, on va lire le texte ensemble dans Matthieu 6, 1 à 4. Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes, pour en être vu. Autrement, vous n'aurez pas de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Quand donc tu fais l'aumône, ne sonne pas de la trompette devant toi, comme le font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. En vérité, je vous le dis, ils ont reçu leur récompense. Mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta main droite, afin que ton aumône se fasse en secret, et que ton Père qui voit dans le secret, te le rendra. Donc, déjà, une première précision au verset 1, quand Jésus parle de pratiquer la justice. Dans le judaïsme, la justice, c'était justement tout ce que Dieu demande, ce que la loi demande, c'était la bonne mise en pratique de la foi. dans le contexte du sermon sur la montagne, on peut penser de manière assez certaine que quand Jésus dit justice, il parle de la mise en pratique de ce que lui-même est en train d'apporter. Donc, l'idée de justice est une idée assez large. Ce n'est pas juste quelque chose qui se règle devant les tribunaux ou qui serait une simple question d'équité, mais c'est globalement la mise en pratique de la foi. Donc, dans ce verset 1, Jésus donne un principe qui est applicable de manière assez générale, qui s'applique presque à l'entier de la vie de foi. Et puis, dans ce qui suivra, dans les versets 1 à 18, il appliquera ce même principe à trois sujets qui sont l'aumône, le jeûne et la prière, tous les trois étant des points importants de la pratique religieuse juive à l'époque, étant de ces choses que les juifs pensaient que s'ils pratiquaient suffisamment, Dieu les approuverait. Et vu que c'était important pour l'époque et pour la religion, aussi des choses qui étaient très valorisées socialement. Alors, je vous redis ce grand principe. Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vu. Autrement, vous n'aurez pas de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Donc, le principe est assez simple. C'est tout ce que vous faites de bien, ben, ne le faites pas dans le but de gagner l'approbation des autres. Ensuite, au verset 2 à 4, Jésus applique ça à la question de l'aumône. Alors là, il faut aussi un petit peu préciser, si on prend directement dans le grec, c'est un terme qui veut, en fait, ça se dirait plutôt « pratiquer la miséricorde ». Donc, la traduction « aumône » n'est pas mauvaise, mais c'est un petit peu plus large que ça, c'est tout ce qu'on peut faire de bien à un plus faible, donc c'est tout ce qui est œuvre sociale, tout ce qui est charité, aumône, etc. Donc, là, si je redis le verset 2, « Quand donc tu fais l'aumône, ne sonne pas de la trompette devant toi, comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. En vérité, je vous le dis, ils ont reçu leur récompense. » Donc là, il y a cette idée de sonner de la trompette qui peut nous sembler un peu bizarre. Alors, pas tout le monde est d'accord sur comment il faut l'apprendre. Il y en a pour qui Jésus est simplement en train de faire une exagération, donc d'exagérer ce qu'on pourrait faire pour que les autres voient bien ce qu'on est en train de faire. D'autres pensent que réellement, à l'époque, par exemple, quand un riche allait distribuer de la nourriture aux pauvres dans les rues, il faisait sonner de la trompette devant lui pour que les pauvres sachent qu'il y avait une distribution et qu'ils puissent bien venir. Donc, bien entendu, c'est une motivation purement pratique. Et puis, si au passage, ça faisait que tout le monde était au courant, c'était purement accidentel. Bon. Alors, c'est pas comme ça que ça se pratique aujourd'hui, mais si on peut faire une petite transposition, on peut imaginer quelque chose qu'on voit des fois dans les films ou à la télé, le grand gala de charité, où on réunit beaucoup de personnalités, on appelle la presse, et après, le donateur vient sur scène avec un chèque grand comme ça et un grand montant plein de zéros et le donne à la personne de l'œuvre qu'il reçoit et on se serre la main en souriant pour la photo et tout le monde se retrouve dans le journal le lendemain. Donc, ce serait un peu la manière exagérée de le faire. Je suis sûr qu'on peut imaginer des manières un peu plus discrètes, mais qui permettent quand même que les autres voient bien de quoi il s'agit. Voilà. Ensuite, on peut préciser aussi un peu le mot hypocrite. Donc, hypocrite, c'est traduit directement du grec. Et en fait, c'est un mot qui veut dire acteur. Donc, si on interprète un peu, c'est-à-dire celui qui fait des choses pour qu'on le voie les faire. Il n'y a pas forcément à l'époque l'idée de quelqu'un qui dit une chose en pensant une autre. Ça, c'est un peu le sens que ça a pris en français. Ce n'est pas forcément directement dans le texte, mais c'est vraiment celui qui fait pour la galerie. Et puis, il y a encore cette idée intéressante qui dit ceux qui font pour être glorifiés par les hommes, ils ont déjà reçu leur récompense. C'est-à-dire, si vous pratiquez les bonnes œuvres pour que les autres vous voient et vous applaudissent, peut-être qu'ils vont vous voir et vous applaudir, mais en tout cas, il ne faut pas espérer qu'en plus, Dieu va vous approuver. Comme on dirait aujourd'hui, on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Voilà. Ensuite, avançons encore un peu avec les versets 3 et 4. Mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta main droite, afin que ton aumône se fasse en secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Donc là, l'idée de la main gauche qui ne se rend pas compte de ce que fait la main droite, là, c'est assez clairement une exagération. Mais pour moi, ce que ça veut dire, c'est que non seulement il faut faire attention de ne pas le faire pour les autres, mais il faut aussi un peu se méfier par rapport à soi-même de ne pas faire des bonnes œuvres pour pouvoir se glorifier un peu à l'interne, avoir une bonne opinion de soi-même. Donc il faudrait le plus possible faire des choses simplement parce que Dieu nous le demande. Je reviendrai un peu là-dessus plus tard. Voilà, donc voilà un peu ce que Jésus dit à mon avis sur les aumônes. Alors ça nous semble probablement un peu lieu commun. Vous avez tous bien rigolé dans mes salutations parce que vous avez remarqué que c'était pas tout à fait comme ça qu'on faisait d'habitude. Et c'est clair que normalement on est un peu plus subtil parce que on sait que un peu de modestie ça fait aussi bonne façon. Mais finalement, si on se regarde bien en face, je crois qu'on fonctionne quand même assez souvent un peu comme ça. Et c'est dur de ne pas avoir une petite arrière-pensée qui se dit voilà, là je suis en train de faire bonne figure et puis je vais être un petit peu reconnu. Donc je crois qu'il faut vraiment qu'on fasse attention à ça. Bon, maintenant, comme vous êtes tous assidus au culte, vous êtes peut-être en train de repenser à une prédication précédente sur le sermon sur la montagne et de vous dire qu'il y a quelque chose qui cloche en repensant à ce que Jésus dit en Matthieu 5, 14 à 16. Là où il dit, c'est vous qui êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier. Elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière brille ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos œuvres bonnes et glorifient votre Père qui est dans les cieux. Donc, là, on a d'un côté Jésus qui nous dit « Faites surtout pas vos œuvres pour que les hommes les voient », et d'autre côté il dit « Il faut qu'ils les voient et puis qu'ils rendent gloire à Dieu ». Donc ça demande peut-être un petit peu de réflexion pour voir comment on fait jouer les deux ensemble. Alors je vais essayer de donner quelques pistes. Alors une première, c'est l'image de la ville sur la montagne qui nous dit justement qu'il y a certaines choses qui ne peuvent pas être cachées. C'est-à-dire, je pense, si pratiquer le bien devient un style de vie, que ça fait partie de nous, alors ça finira forcément par se voir, même si on ne se vante pas, même si on ne sonne pas de la trompette et qu'on ne fait pas venir la presse. Donc, ça c'est une chose. Un peu dans le même sens, j'ai pris un texte dans l'épître de Paul aux Colossiens, au chapitre 3, les versets 22 à 24. Donc là, Paul parle en fait aux serviteurs et à l'attitude qu'ils doivent avoir en accomplissant leur tâche, mais je crois qu'on peut aussi en tirer quelque chose. Donc il dit, « Serviteurs, obéissez en tout à vos maîtres selon la chair, et cela non seulement sous leurs yeux, comme si vous cherchiez à plaire aux hommes, mais avec simplicité de cœur, dans la crainte du Seigneur. Tout ce que vous faites, faites-le de toute votre âme, comme pour le Seigneur et non pour les hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage en récompense. » Servez Christ le Seigneur. Donc là, de nouveau cette idée que ce qu'on a à faire de bien, eh bien, on le fait pour le Seigneur, indépendamment de s'il y a quelqu'un qui le regarde ou qui ne le regarde pas. Et puis après, si quelqu'un le voit, tant mieux, sinon tant pis. Ensuite, je crois que la question qui se pose aussi très nettement, c'est la question de l'objectif. Est-ce que le but, c'est de nous glorifier, nous, ou bien est-ce que c'est de glorifier le Christ? Et là, j'ai pris un autre passage de Paul dans l'Épître aux Corinthiens, au chapitre 15, les versets 8 à 10, où là, il se compare un petit peu aux autres apôtres à qui Jésus s'est révélé, où il dit « Après eux tous, il s'est fait voir à moi-même, comme à l'avorton, car moi, je suis le moindre des apôtres. Je ne mérite pas d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. » Donc là, d'un côté, Paul dit assez nettement tout le bien qu'il a fait, il estime qu'il en a fait plus que sa part, mais en même temps, il l'introduit bien en montrant que de lui-même, il n'avait pas la capacité de le faire, et en disant bien que ce qui lui permet de le faire, c'est la grâce de Christ et pas sa propre capacité ou sa propre dévotion. Et je crois que c'est aussi un peu l'attitude qu'on peut prendre, donc de surtout dire qu'on fait ce qu'on fait pour Christ et pas s'en donner le mérite. Et je pense peut-être même la pire attitude qu'on peut avoir par rapport à ça, c'est de faire les choses pour augmenter notre statut dans l'Église, pour être bien vu au sein de l'Église. Parce que, à la limite, à l'extérieur, ça peut être utile d'avoir bonne réputation pour être plus crédible quand on annonce l'Évangile. Mais à l'intérieur de l'Église, quand on entre dans une espèce de logique de compétition spirituelle, je crois que c'est vraiment très dommageable. Et que c'est aussi ce que Jésus fustige en particulier dans le sermon sur la montagne, puisqu'il s'adresse à des juifs et il parle de ce qu'ils font dans la synagogue, donc c'est quand ils sont avec ceux qui ont la même foi, et puis essayer de se faire bien voir parce qu'ils mettent bien en pratique les valeurs du milieu où ils sont. Et puis, je veux faire là-dessus aussi un petit parallèle avec la question du jugement, parce que je crois que les deux questions sont liées, c'est un peu la même logique de se classer dans l'Église, et je crois que si on a peur d'être jugé par les autres, que le reste de l'Église va trouver qu'on n'est pas assez des bons chrétiens, eh ben, on va commencer à faire le compte de tout ce qu'on fait de bien pour avoir quelque chose à leur répliquer. À l'inverse, si on se trouve en face de quelqu'un qui énumère toutes ses bonnes œuvres et combien il est bon et meilleur que les autres, on va être très tenté de chercher la faille et puis de trouver tout ce qu'il fait de mal, et puis d'abord il fume et puis ensuite il n'est pas assidu à la réunion de prière et tout ça. Donc, je crois que on aura toujours de la peine à ne pas compter nos mérites si on a peur que nos fautes soient comptées par les autres, et inversement. Donc, vraiment sortir de cette logique de calcul. Et encore, si on sait qu'on est hors de cette logique de calcul, alors on aura moins de peine à se dire ce qu'on fait les uns les autres comme encouragement, plutôt que pour se glorifier. Je pense qu'on a quelque chose à tirer d'entendre des témoignages comme on a eu ce matin, et que ça nous encourage de voir ce que d'autres font. Et on en profite d'autant mieux dans ce sens-là quand on n'est pas en train de se demander si l'autre en a fait plus que moi et puis qui est le meilleur. Voilà. Et puis, je pense aussi qu'une manière de, comme Jésus, mettre la lampe sous le boisseau, donc sous un seau, c'est quand quelqu'un constate nos bonnes œuvres, d'oublier de dire que c'est à cause de Christ et que c'est grâce à Christ. Donc si quand quelqu'un constate qu'on fait du bien, on dit soit « non, non, mais c'est naturel, j'ai rien fait », soit on fait comme si ça venait de nous-mêmes, ben là, on est en train d'oublier de témoigner de Christ. Par contre, quand on évite de dire tout ce qu'on a fait sur tous les toits, je crois que c'est pas là le problème. Voilà. Donc, maintenant, on a beaucoup parlé de bonnes œuvres. J'aimerais encore venir sur une autre question, c'est quelle est notre motivation finalement pour faire tout ça? Parce que on sait bien que c'est pas pour gagner notre salut, parce que notre salut nous est acquis par les mérites du Christ, parce qu'il a fait sur la croix, et que toutes nos bonnes œuvres ne peuvent rien y ajouter ni y enlever. On a vu aussi que c'était pas pour notre mérite ou pour notre réputation. Donc maintenant, qu'est-ce qui nous motive à bien agir? Moi, je dirais que je vois trois raisons qui, à mon avis, en font pratiquement une seule. La première, c'est un peu un gros mot à notre époque, c'est une question d'obéissance. Si on appelle Jésus notre Seigneur et qu'il est vraiment, alors on va faire ce qu'il nous demande, peu importe qu'on ait quelque chose à y gagner ou non. Une deuxième chose, c'est l'amour pour Dieu et pour les hommes. Si on aime vraiment Dieu et qu'on aime vraiment les hommes autour de nous, alors ça se traduira par des actes de miséricorde. Et comme Jésus nous commande d'aimer les hommes et d'aimer Dieu, eh ben ça rejoint le premier point. Et la troisième chose, c'est que être chrétien, c'est aussi être dans une démarche où on cherche à ressembler à Christ et à être transformé par le Saint-Esprit dans l'image du Christ ressuscité. Et ça aussi, ça se traduit dans les faits. Et quand c'est ça notre motivation, on n'a pas besoin de mettre en avant parce que c'est pas ça le but. Je pense réellement que si on fait le bien pour ces raisons-là, ça finira par se voir et ça rendra gloire à Christ. Mais je pense que c'est d'autant plus efficace quand on n'est pas en train de se demander s'il y a quelqu'un pour le voir ou pas. Parce que les gens ne sont pas si bêtes et si on fait une bonne action en tant qu'Église par année et qu'on fait des communiqués de presse et qu'on essaie que tout le monde soit au courant, bah, les gens se rendent bien compte que c'est une opération de relations publiques et pas un acte de charité. Ensuite, je voulais encore dire deux mots sur la question de récompense que Jésus mentionne, que ces textes mentionnent. Je vais dire deux mots, mais pas beaucoup plus, parce que je ne sais pas entièrement quoi en dire. Jésus parle de notre Père Céleste qui nous récompensera, et je crois que c'est vrai, et que Dieu n'est pas chiffre, et n'est pas radin, donc on sait que la récompense sera à la hauteur. En même temps, je crois qu'il faut faire attention de ne pas trop définir ce qu'est cette récompense, de dire qu'on sera plus riche, plus heureux ou plus beau, ou qu'on aura une plus belle place dans le ciel, parce que dès qu'on se met à dire les bonnes œuvres, ça vaut telle récompense, ben on risque de retomber dans cette logique de calcul où on compte nos mérites pour se demander combien on a droit en retour. Et je crois, d'un côté, vivre avec le Christ et participer à ses œuvres, c'est déjà en soi une récompense, et pour le reste, on peut faire confiance à Dieu et ne pas essayer de faire des comptes d'apothicaire. Voilà. Donc, si je résume et que je conclue un peu, on ne va pas pratiquer le bien comme si notre salut en dépendait. Et on doit surtout bien se garder de ne pas le faire pour améliorer notre réputation dans l'Église ou dans la société. Par contre, nous devons d'obéir au Christ dans l'amour et par le Saint-Esprit. Et je pense qu'ainsi, le Christ sera glorifié. Merci et bon dimanche.
Bon dimanche. Hein.